7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Christophe Prochasson.
Bonjour,
vous êtes historien, le dialogue entre intellectuels et gouvernants s'est-il rompu? Comment le monde savant peut-il retrouver sa place dans le temps et l'exercice de l'action publique? Voici deux des questions que vous abordez dans Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, votre livre paru hier aux éditions Fayard. Nous avons entendu tous deux la revue de presse internationale et il était largement en question du Brexit et de la décision de Boris Johnson d'ordonner la suspension du travail des parlementaires. Alors c'est prévu par la Constitution britannique, mais nous l'avons entendu tous deux, la presse britannique, en tout cas une partie d'entre elles, considère qu'il s'agit quasiment d'un coup d'État. On voit qu'il y a une pratique gouvernementale qui certes est constitutionnelle, mais pourrait sembler violer les principes de la Constitution, et on voit qu'un certain nombre de règles auxquelles sont attachés les intellectuels, comme par exemple le formalisme de la règle de droit, la discussion en démocratie, bref, toutes ces choses-là sont en péril. Votre point de vue sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais pas uniquement, bien sûr, en Grande-Bretagne, Christophe Prochasson?
Alors vous commencez par me faire jouer le rôle, je dirais, d'un intellectuel traditionnel, c'est-à-dire qui se mobilise et qui s'indigne face à une situation qui n'est pas réjouissante, c'est le moins qu'on puisse dire. On vient d'entendre Camille Magnard. Je me tourne vers l'est du populisme, je me tourne au nord du populisme, je me tourne au sud du populisme, je me tourne vers l'ouest du populisme. Alors je n'interrogerai pas ici le bien fondé de cette notion, qui correspond à la fois sans doute à des phénomènes généraux, mais aussi répond à des situations locales, hein. Il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que cette photographie là est particulièrement sinistre, pour employer un mot un peu fort. J'ajoute quelque chose qui évidemment tient davantage à la situation des intellectuels en général et des chercheurs en particulier, c'est que dans tous ces pays, il devient très très difficile de faire de la recherche en sciences humaines. Alors, on pourrait prendre des tas d'exemples en Europe même. Regardez ce qui se passe par exemple en Hongrie. On en a beaucoup parlé il y a quelque temps. Le collège, l'université européenne qui a dû remiser un peu son activité à Budapest. On pourrait prendre le cas de la Pologne. L'école des hautes études a été victime il y a peu d'une véritable agression nationaliste plus ou moins soutenue. L'école avait avec d'autres partenaires, a organisé il y a quelques mois un très grand colloque international sur l'histoire de la Shoah en Pologne, et tout un courant très important qui s'est développé en Pologne, et ce colloque a été perturbé par des agitateurs nationalistes polonais, et nous attendons toujours d'ailleurs les excuses de l'ambassadeur de Pologne qui n'a pas condamné cet incident.
Que voulait-il donc, ces perturbateurs? Eh bien, que reprochait-il au colloque?
Tout simplement, il considérait que ce colloque n'était pas un colloque scientifique mais un meeting anti-polonais, ce qu'il n'était en aucun cas, puisqu'il faisait tout simplement sa place à des historiens internationaux de premier plan et qui renouvellent très sensiblement l'histoire de la Shoah en Pologne. C'est un événement dont on a beaucoup parlé. Mais on pourrait prendre aussi le cas d'autres pays. Hein. Je pense qu'il se passe au Brésil. Alors il y a certes ces incendies, mais...
Pourtant le Brésil est l'un des rares pays qui a pris sa devise auprès d'un sociologue.
D'Auguste Comte. Bien sûr. Mais ce n'est pas... pour des motifs patriotiques que je fais allusion au Brésil, tout simplement en constatant que les collègues brésiliens font face à des conditions de travail qui deviennent difficiles. Et évidemment, cette situation nous préoccupe, car le Brésil accueille évidemment de grandes traditions intellectuelles, notamment en anthropologie. Mais je pourrais prendre le cas du Japon, je pourrais prendre le cas aussi de nos collègues britanniques, puisque vous y faisiez allusion, alors pour d'autres raisons. Mais le Brexit, évidemment, inquiète beaucoup les chercheurs britanniques en termes d'accès au financement européen, dont les Britanniques profitaient beaucoup, et qui a permis aux chercheurs britanniques de faire des études importantes. Donc voilà, au-delà de ce que l'on peut dire de façon générale.
Mais si vous me permettez... Sur le Brexit, Christophe Prochasson, il y a quand même une sensation, le fait de considérer que ce pays est l'incarnation de ce que la démocratie peut faire de plus rigoureux, de plus ouvert en matière matière de discussion, de conversation nationale. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'une porte se ferme.
Oui, bien sûr. Bon, je pense que d'abord, c'est pas l'histoire n'est pas totalement terminée. Vous receviez Francis Fukuyama, excusez-moi, mais d'ailleurs, je ne crois pas que Fukuyama n'ait jamais dit une telle sottise. Mais je pense que il faut attendre un petit peu. Moi, je fais confiance à la démocratie britannique. Si j'entends mes collègues britanniques, ils sont très inquiets, bien sûr, mais en même temps. Comme vous le dites très justement, ils ont conscience aussi d'appartenir à une grande tradition démocratique qui a des capacités. C'est vrai que lorsqu'on voit Monsieur Johnson, on est un peu troublé dans son exercice corporel, même dirais-je, c'est-à-dire de le voir aussi décalé par rapport à l'habitude, en tout cas aux habitudes que nous croyons incarné dans le peuple britannique. Bon,
Churchill aussi avait ses excentricités vestimentaires.
Oui, on voit bien qu'il cherche un tout petit peu à imiter un grand ancêtre, mais bon, je ne vais pas vous citer
la fameuse. Ensuite, on ne va pas faire de comparaison.
Mais il y a quand même quelque chose d'un peu dérisoire là-dessus. Si vous me permettiez de finir, c'est-à-dire que par rapport au panorama que vous m'invitiez à brosser à la hâte, je pense qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on dit, bon, évidemment, tout ça est très inquiétant, c'est une parole un peu banale, la question est de savoir, bon, peut-être faut-il maintenant comprendre pourquoi nous en sommes là. Hein, et c'est là où les historiens et tous ceux qui font des sciences sociales en général doivent se poser la question de savoir pourquoi nous en sommes là. En quoi nous en sommes là, évidemment, et j'y insiste. Il y a des raisons générales qui traversent le monde, ça c'est clair, mais il y a aussi des raisons locales, et cette combinaison entre le local et le général doit être très 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 bien analysée, afin évidemment qu'on essaye d'apporter des réponses justes, et non pas simplement des réponses qui relèvent de l'indignation.
Alors précisément, selon vous, Christophe Prochasson, comment peut-on comprendre cette évolution ?
Bon, il y a évidemment des raisons profondes d'ordre général qui relèvent, bon, je vais employer un mot excessivement qui taille trop grand, qui c'est ce qu'on appelle la globalisation et qui a produit dans les populations un certain nombre d'effets, à commencer évidemment par la croissance des inégalités, qui est sans doute une des raisons fondamentales de cette réactivité, de ce repli nationaliste et de cette fuite en avant et de cette contestation radicale des vieux modèles. Bon, moi je crois que c'est sans doute une des causes principales. Mais d'un point de vue plus culturel, disons, je crois que moi je suis très attentif, par exemple, à cette nouvelle ère numérique dans laquelle nous sommes entrés et ce qu'elle a eu comme effet culturel et je dirais même comme effet intellectuel sur les cultures politiques. Je crois que la politique maintenant, ça se fait autrement que dans le vieux modèle dont, sans vous offenser, vous et moi, nous sommes peut-être les héritiers et qui nous renvoie à un autre âge de la politique dont nous sortons. Et ce nouvel âge de la politique est moins adossé à des textes, à des auteurs, je dirais à la raison aussi, pour employer un mot un peu ancien et poussiéreux peut-être, mais auquel je crois beaucoup et qui fait que les populations, alors je ne dis pas qu'autrefois les populations étaient pleines de raison, l'histoire du XXe siècle manque, mais tout de même, tout ça, ça s'est faillé.
Oui, justement, je ne suis pas offensé d'appartenir au vieux monde, mais si on va dans ce vieux monde, Christophe Prochasson, dans votre ouvrage...
Je n'ai pas utilisé ce mot-là. Hein. Le départ entre le vieux et l'ancien... N'est pas tout à fait ce que je voulais dire.
Dans une forme classique de dialogue politique, dans Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, vous déplorez l'évolution, l'involution même du débat national, mais si l'on revient quelques dizaines d'années en arrière, il y avait des hyènes dactylographes, il y avait des insultes échangées de part et d'autre. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, le numérique, sachant que les années 50, 60 ont été marquées par des affrontements idéologiques qui ne laissaient pas véritablement de place à la discussion aussi ?
Non, non, vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas en train de dépeindre un monde enchanté qui serait le monde, l'ancien monde où chacun, avec beaucoup de raisons, échangeait des idées. La presse, par exemple, puisque c'est une période que je connais bien, de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, est une violence insensée. Il suffit de lire, je ne sais pas, je pense à Léon Daudet, par exemple, et à son...
Donc à des pamphlétaires d'extrême
droite, mais... Vous avez raison de faire aussi allusion à ce qui se passait dans les années 30 à gauche, hein, la façon dont Léon Blum était traité par le Parti communiste jusqu'en 1934, etc. Donc on pourrait prendre tout cela. Mais ce qui me frappe, c'est que ce moment-là aussi est accompagné, je dirais, sociologiquement sans doute, de relations plus établies, plus fréquentes entre le monde intellectuel et le monde politique. Hein. Alors oui, le langage peut être fleuri, peut être même extrêmement agressif. Il y a de la violence politique, bien sûr, mais il y a d'autres dispositifs sociologiques qui permettent à la classe politique d'être plus en relation avec la classe intellectuelle. Et peut-être ce qui se passe depuis l'après-guerre, c'est une professionnalisation, je dirais, réciproque de la classe politique d'un côté et du monde intellectuel de l'autre, et progressivement une mise à distance des uns et des autres, qui a des effets sur le discours politique et sur les références dont on se sert quand on fait de la politique.
Christophe Prochasson, je vous propose justement d'entendre Emmanuel Macron lors du grand débat des idées avec des intellectuels. On va l'entendre réagir à la manière dont se déroule cette vie intellectuelle.
Pour moi, ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est de redéfinir un projet national et européen. C'est ce que nous devons faire. Et donc, dans ce cadre, il me semblait nécessaire qu'il puisse y avoir un échange, comme celui que nous avons aujourd'hui, avec vous, donc des intellectuels, on n'ose plus prononcer ce mot parfois, on m'a beaucoup reproché d'utiliser, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont à la fois engagés dans leur discipline, sur le plan de la recherche, de l'université, de leur activité académique, qui publient, enseignent, cherchent, etc., mais qui sont aussi, du coup, dans la cité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse avoir un débat extrêmement ouvert sur... Non seulement la manière dont vous voyez ce moment que vit notre pays, et avec notre pays d'ailleurs le continent, mais aussi les voies et moyens d'en sortir. Je ne crois pas que ce soit une crise au sens où on pourrait la borner, c'est-à-dire dire qu'il y a un début et une fin, non. C'est-à-dire comment on peut justement bâtir les réponses à ces grandes transformations, ces grandes transitions que nous sommes en train de vivre.
C'était il y a un peu moins de 6 mois, votre point de vue, Christophe Prochasson. Vous êtes historien, on a parlé de ce qui se déroulait notamment en Grande-Bretagne. Votre vision sur la France ?
D'un point de vue général ?
Non, du point de vue donc ce rôle des intellectuels.
Oui, de ce rôle des intellectuels.
Est-ce qu'ils sont aussi marginalisés ?
Écoutez, oui et non. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce qu'on entend aujourd'hui par intellectuel, le président de la République disait, on n'ose pas prononcer ce mot, ce qui est possible, mais surtout, ce qui me frappe, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui souvent intellectuel sont soit des experts, c'est-à-dire des gens extrêmement spécialisés ou prétendument extrêmement spécialisés dans un domaine. Alors les économistes, par exemple, occupent beaucoup ce rôle, sont beaucoup sollicités. On le voit aujourd'hui, ce sont sans doute les intellectuels les plus consultés. Et d'autre part, des communicants, c'est-à-dire des gens qui ont un talent rhétorique ou un talent médiatique qui leur permet de bien transmettre un certain nombre d'idées simples.
En décalage avec leur savoir ? Ah oui, en décalage avec des idées simples, ce n'est pas un compliment.
Non, ce que je veux dire, les communicants sont d'abord des gens qui communiquent, si j'ose dire. Et donc, il y a cette espèce de déconnexion entre les savoirs savants, hein, qui ont tendance à se replier dans le monde académique, dans le monde de la science, et puis des professionnels de la communication ou des professionnels d'un savoir qui ont l'illusion de pouvoir livrer au pouvoir politique des solutions toutes faites. Vous faisiez allusion à Auguste Comte tout à l'heure. Au fond, c'est une espèce de rapport positif
de la sociologie.
Mais une espèce de conception positiviste du savoir, c'est-à-dire que comme si il y avait des problèmes dans la société et qu'à chaque problème, il y avait une solution. C'est-à-dire qu'on ouvrait la boîte à outils, et puis on trouvait la solution. Il y a du déficit, parce que généralement, les problèmes qu'on aborde sont essentiellement, disons, des problèmes économiques. Mais pour le reste, je veux dire, ce qu'a apporté ou ce que peuvent apporter ce qu'on appelle en France, dans la grande tradition disons, du 19e siècle, des intellectuels, c'est une vision générale, une articulation de différents problèmes ou différentes, ou le travail que font ce qu'on appelle de façon parfois un peu paresseuse des intellectuels critiques, c'est-à-dire de déplacer les questions telles qu'elles se posent de façon ordinaire. Ça, effectivement, ceux-là, ils sont pas très très entendus et un peu moqués, un peu raillés parfois.
Oui, mais justement, Christophe Prochasson, vous parlez par exemple de ces experts, de ces gens qui étaient extrêmement scientistes, c'est-à-dire qui pensaient qu'avec la science on allait s'en sortir. J'ai sous les yeux le magazine Le Point qui vient d'être publié aujourd'hui. Il y a des solutions pour l'école selon ce magazine dans les sciences cognitives avec un certain nombre de certitudes. Est-ce que pour vous, par exemple, les sciences cognitives peuvent apporter la clé définitive de tous les problèmes scolaires ou même d'une grande partie des problèmes scolaires ?
Écoutez, définitive, certainement pas. Et je trouve assez inquiétant, d'ailleurs, cette découverte un peu naïve aujourd'hui et positiviste, pour le coup, effectivement, dans un sens un peu ordinaire, en tout cas du mot, des sciences cognitives. Il ne s'agit pas du tout de dire que les sciences cognitives n'ont rien à dire sur la question des apprentissages. J'admire beaucoup, par exemple, le travail que fait Olivier Houdet sur ces questions-là. Mais tout d'un coup, ça relève exactement de ce que j'étais en effet en train de dire. On a une boîte à outils, science cognitive. Hein, et on va mettre des électrodes sur la tête des enfants et on va découvrir la façon dont fonctionne le cerveau. Et il suffira de comprendre cela pour mieux enseigner. Bon, c'est une façon évidemment très réductrice de concevoir l'être humain. Ce qu'ont précisément apporté les sciences sociales, c'est que l'homme est... au sens générique du terme, bien sûr, est immergé dans un milieu qui contribue à le faire tel qu'il est. Donc, bien sûr que pour la question de l'école, les sciences cognitives sont importantes, les sciences du cerveau aussi en général. C'est d'ailleurs une chose qui est assez connue et bien admise. Si vous posez le problème, la question est de savoir comment on peut articuler les sciences sociales aux sciences cognitives. Et ça, c'est un défi, et c'est pas commode, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'il faut poser le problème.
Justement, dans cette rentrée, dans la rentrée des idées, en quelque sorte, il y a d'un côté les sciences cognitives qui pensent apporter une solution aux problèmes scolaires, il y a aussi un travail, alors par exemple sous la direction de Bernard Lahire, qui lui pointe les inégalités sociales qui seraient à l'origine des déséquilibres scolaires. N'y a-t-il pas aussi une tentation d'évacuer un certain nombre de problèmes sociaux par...
Mais bien sûr. Mais bien sûr, si vous voulez, ce réductionnisme, je dirais, au cerveau, est tout à fait régressif d'un point de vue intellectuel.
Mais est-ce que c'est pas aussi votre défaite, je veux dire, à vous, les intellectuels, qui avez étudié...
Oui, parce que, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est l'ère de l'expertise, effectivement. C'est-à-dire qu'on va trouver la solution. On va dire, voilà, que le point soit aussi séduit par cela ne m'étonne pas tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, on va... Il suffit d'étudier le cerveau pour trouver des réponses aux défaillances qui sont incontestables, aux défaillances de notre système éducatif, parce que on aurait tenu à l'écart, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, les sciences cognitives de la formation des enseignants en général. Bon, mais cette guerre sciences cognitives contre sciences sociales me paraît totalement intellectuellement et scientifiquement calamiteuse, parce que évidemment c'est les deux qu'il faut faire fonctionner ensemble. Et ça ne fonctionne pas très bien, pour des raisons dans lesquelles il serait peut-être un peu long d'entrer, mais c'est un vrai défi, et je pense que cette évolution, encore une fois, cette réduction de l'homme à cela me paraît préoccupante.
Christophe Prochasson, vous êtes historien, vous publiez Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, parce que oui, vous avez été à l'intérieur de l'État aux côtés de François Hollande. On va en parler dans quelques minutes et on va évoquer la manière dont vous avez observé l'État français tel qu'il fonctionne et tel qu'il pourrait fonctionner aussi. 8h sur France Culture. Et à 8h20, nous retrouvons notre invité, l'historien Christophe Prochasson. Vous publiez Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, paru hier aux éditions Fayard. Et voici un bon exemple, finalement, Cédric Villani. Alors, ça n'est pas un intellectuel, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'expert, un mathématicien. Non, je disais, ce n'est pas un intellectuel, vous poussez de grands cris, Christophe Prochasson.
Je veux dire par là
que c'est un scientifique avant d'être quelqu'un qui tient des propos généraux sur la société et sur la politique. Ensuite, peut-être que vous considérez aujourd'hui qu'il est devenu un intellectuel.
Non, mais être un intellectuel, c'est pas un jugement de valeur. Je pense que, en l'occurrence, la remarque que nous pourrions faire, c'est qu'il est, il est plus rare dans l'histoire politique des intellectuels de voir en effet des gens issus des mathématiques. Encore que, il y a de grandes figures issues des mathématiques qui sont connues pour leur engagement politique, que des gens issus de la philosophie, de l'histoire, des sciences humaines en général. Je pense d'une certaine façon que le degré de notoriété atteint par Cédric Villani, en effet, est exceptionnel. Il n'y a pas tellement d'équivalent dans l'histoire. Je vais faire un parallèle extrêmement audacieux, mais dans mon périmètre, je dirais, d'historien, je penserais à quelqu'un comme Paul Langevin, par exemple, grand physicien des années 30, engagé dans le comité de vigilance intellectuelle.
Beaucoup de scientifiques dans les années 30 engagés auprès du Parti
exactement.
Communiste. Mais pour ce qui concerne Cédric Villani, il a raison ou il a tort?
Oh, je me garderai bien de répondre à cette question.
Vous doutez bien que je vais insister pour que vous fassiez un commentaire.
Oui, alors un commentaire.
Pas un commentaire sur sa décision personnelle, puisqu'elle n'appartient qu'à lui, mais est-ce que d'après vous, c'est...
Est-ce qu'il a des chances, autrement dit? Est-ce que ça peut marcher? Écoutez, moi je suis pas un commentateur politique, mais je pense en effet qu'il représente une personne qui peut avoir de l'écho au sein de l'électorat parisien, qui est un électorat plutôt cultivé, socialement proche de ce que représente Cédric Villani. C'est un homme qui n'est pas qui n'est pas clivant, comme on dit. Il a même un brin de fantaisie vestimentaire et rhétorique.
Bah, tout à l'heure pour Boris Johnson, vous disiez que c'était un défaut.
Oui, alors effectivement, mais Boris Johnson joue plutôt dans la cour de la vulgarité, alors que Monsieur Villani est plutôt dans la cour d'une certaine distinction chic, mais pas trop. Donc voilà, moi je pense que il n'est pas totalement déraisonnable de le voir, de son point de vue, de porter sa candidature.
Christophe Prochasson, est-ce qu'il est véritablement opportun pour un intellectuel, un scientifique, de s'engager en politique? Vous rappelez dans votre ouvrage la phrase de Durkheim qui dit en substance que un intellectuel ça fait un mauvais politique et réciproquement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé? Vous avez travaillé auprès de François Hollande pendant 2 ans, tandis que François Hollande était à l'Élysée, vous étiez notamment son conseiller éducation. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce qu'un intellectuel peut faire en politique?
Écoutez, c'est en fait un intellectuel en politique, mais il peut faire beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que pouvait faire un intellectuel à l'intérieur de l'État. Et c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je tire un bilan mitigé, à la fois tout à fait satisfait de l'expérience, et je pense avoir pu faire des petites choses. Mais les logiques d'action sont très différentes. Les contraintes qui pèsent sur l'homme politique et
pourquoi
sur l'homme...
Expliquez-nous.
Écoutez, il y a deux choses qui me paraissent. Il y a d'abord une question de temporalité. C'est-à-dire que les hommes politiques sont dans l'action immédiate, dans le quotidien, dans la réactivité permanente. Et ce qu'on appelle un intellectuel, là, on réduit le périmètre au monde de la recherche. Évidemment, les gens qui travaillent dans ce milieu-là sont au contraire des gens qui maîtrisent leur temps, maîtrisent leur agenda, prennent leur temps, parce que la recherche, c'est comme ça, on ne sait jamais combien ça peut durer. Donc cette différence-là me paraît fondamentale et source d'énormes malentendus entre les deux milieux.
Donnez-nous des exemples. Quand vous avez été aux manettes, à l'Élysée, qu'est-ce qui était en quelque sorte inconciliable?
Bah, écoutez, c'est très curieux le travail que, en tout cas tel que moi je l'ai perçu à l'Élysée, c'est-à-dire en même d'un certain point de vue, l'Élysée est le lieu encore de la réflexion d'une certaine façon, parce que le président de la République est sur son mandat, sur son quinquennat, il n'embraye pas sur une administration directe comme Matignon, il a donc cette capacité de prendre un peu de la auteur. Bon, en tout cas, c'est une conception de la présidence, me semble-t-il, qui n'est pas en contradiction avec les institutions de la Ve République. Donc, il y a un peu de temps, en principe. Hein, mais il y a des coups d'accélérateur soudains. C'est-à-dire, il y a en permanence des crises, des conflits, des...
Et Christophe Prochasson, quand François Hollande a-t-il écouté les intellectuels? Un intellectuel, il s'en moquait un peu.
Écoutez, vous êtes un peu hâtif.
Alors rectifiez-moi.
Je rectifie d'abord parce que je pense que alors il les écoutait. Alors après, qu'est-ce qu'il en faisait? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais moi, je constate qu'il a fait appel à quelqu'un comme moi, et nous ne connaissions pas, et donc il s'est sans doute dit qu'une personne dans mon genre pouvait être estimable et utile. Deuxièmement, il m'avait demandé, et ça se faisait avant d'ailleurs aussi, d'organiser de temps à autre des déjeuners sur des thématiques avec des chercheurs, et il me paraît que dans ces déjeuners, les choses n'étaient pas futiles, qu'il y avait des choses intéressantes qui se disaient, dans lesquelles il s'impliquait.
Frédéric Saïs.
Il y a aussi, me semble-t-il, un paradoxe dans ce qu'on demande aux responsables politiques, c'est-à-dire une efficacité de tous les instants, une réactivité maintenant assez forte, notamment avec les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux. Il faut tout de suite une réponse. On a beaucoup parlé du syndrome un fait divers, une loi. On se souvient que le président que vous avez aidé, François Hollande, avait été amené à réagir à l'expulsion d'une jeune Kosovare nommée Leonarda et qu'il avait été ensuite démenti en direct sur BFM TV. Bref, et dans le même temps, on demande aussi un récit. C'est le mot très à la mode au président de la République, au pluriel. Comment on peut être amené, selon vous, à résoudre ce paradoxe de temporalité?
Je crois qu'on ne peut pas le résoudre. Et c'est bien toute la difficulté que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que je crois que de plus en plus, le président de la République justement ne peut plus jouer le rôle de mise en récit, de donneur de sens, pour employer un mot encore plus pompeux, à son action. C'est ce qu'on a reproché d'ailleurs à François Hollande. Bon, et les conseillers, en tout cas moi de mon côté, dans petit dossier que j'avais à traiter, c'était un peu une partie de ma tâche, par le biais de notes. Vous savez, les conseillers font des notes. C'est d'ailleurs une pratique incroyablement archaïque, si on y réfléchit bien, c'est-à-dire d'écrire des notes au président de la République qu'on rencontre assez peu, hein, dans le quotidien, dans lequel c'est comme si on lui envoyait une lettre ou plusieurs lettres quotidiennes dans des dossiers à l'ère du numérique, quand même. C'est assez amusant. Ce qui, d'ailleurs, doit être considéré au regard de toutes les autres sources d'informations que le président de la République a sur son téléphone portable, ses SMS, ses visiteurs, etc. Bon, donc, ces notes, elles visaient un peu à mettre du sens, justement, dans ses actions.
Christophe Prochasson, dans votre livre « Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État » paru aux éditions Fayard, vous évoquez un autre intellectuel qui s'est engagé en politique, c'est Vincent Peillon, on le reçoit souvent ici sur France Culture. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a été très critiqué par les commentateurs. On disait que c'était un mauvais ministre de l'Éducation nationale. J'ai bien lu, j'ai mal lu?
Bah, écoutez, les commentateurs peut-être, mais...
Point de vue, justement, est-ce que non. Vincent Peillon n'est pas l'incarnation d'une dichotomie impossible à résoudre?
Peut-être. Ce que je vois avec Vincent Peillon, c'est qu'on a un authentique philosophe, c'est-à-dire qui a vraiment le goût de la lecture, de la réflexion, etc., et qui fait le choix de l'action publique. Et j'ai un peu le sentiment, je pense qu'il serait d'accord avec ça, que lorsqu'il est dans l'action publique, il a soif de réflexion, de cette autre temporalité dont je parlais, c'est-à-dire de prendre son temps pour lire, pour réfléchir, etc. Et puis, lorsqu'il est philosophe, il lui manque l'action publique. Et c'est ce déchirement, au fond, qui est au cœur, je crois, de plusieurs intellectuels engagés dans la vie publique.
Bon, mais ça, c'est un problème existentiel pour lui.
Oui.
Mais sur le plan, j'allais dire, intellectuel, le fait qu'il y ait un clivage entre cet homme étonnant, quand on l'entend parler de Jaurès, c'est un historien, il n'y a pas de doute là-dessus, et lorsqu'on l'entend en politique, c'est un politique, et on a l'impression qu'il y a peu de communication entre les deux.
Ah, je ne crois pas, parce que il est, comme vous le faites, comme vous le dites, il est très profondément imprégné de cette culture républicaine et socialiste de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, les commentateurs dont vous parliez se sont moqués un peu de lui, en disant il se prend pour un nouveau Jules Ferry, etc. Sa loi, la loi de refondation de l'école de la République, est profondément inspirée, je crois, de cette vision de la République et de l'école de la République. Alors, modernisée, bien sûr, adaptée à son temps et à l'enseignement de masse. Mais je pense vraiment, là, qu'il y avait un projet politique en phase avec ses convictions philosophiques incarnées dans l'histoire de la philosophie dans laquelle il se trouve le plus à l'aise, en tout cas.
François Hollande a eu un Premier ministre nommé Manuel Valls. On l'écoute, Christophe.
Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes. Bien entendu.
C'est l'une des remarques les plus célèbres, en tout cas dans le milieu intellectuel, Christophe Prochasson, de Manuel Valls, expliquant que la sociologie, je résume brutalement, avait tendance à excuser les terroristes. Vous en pensez quoi ?
Écoutez, je pense que c'est une formule, alors si je suis gentil, malheureuse, mais je pense que c'est une...
Il l'a toujours assumé.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une formule détestable, à vrai dire, et qui surtout passe à côté de ce qu'est le travail de compréhension des sciences sociales. Alors qu'après, certains instrumentent les savoirs pour excuser, ça c'est possible, que lorsque l'explication serve à excuser... Quand elle est saisie par des gens engagés dans la politique, c'est possible. Mais on ne peut pas dire que l'explication vaut excuse pour un savant. C'est absolument, passer à côté du travail scientifique.
Vous en avez parlé avec lui ?
Non, je n'en ai pas parlé avec lui, mais avec le président de la République, Hollande, en revanche, nous en avons parlé. Il avait été, un peu troublé, j'utilise la langue de bois propre aux politiques, euphémisant tout, mais il avait été troublé par la polémique qui avait suivi dans les milieux intellectuels, puisqu'il m'avait demandé aussi...
Troublé, ça veut dire que François Hollande ne comprenait pas l'émotion, j'utilise moi aussi un euphémisme, du monde intellectuel.
Non, je pense qu'il est en désaccord
avec
Manuel Valls. Et d'ailleurs, c'est la raison, il m'avait demandé à cette occasion de pouvoir rencontrer des chercheurs en sociologie, en sciences humaines, pour pouvoir en discuter.
Frédéric Saïs.
On a parfois aussi reproché la complexité du langage d'Emmanuel Macron. Alors, chacun jugera si c'est un intellectuel en politique ou pas, mais quand il utilise des mots comme ipséité au cours de ses interviews, ça fait tout de suite jaser certaines émissions parodiques notamment. Selon vous, comment le politique aujourd'hui peut-il introduire de la complexité dans des messages qui doivent être, sur la forme, forcément courts ?
Oh là là ! Bon, D'abord, je pense que la complexité, elle ne se traduise pas forcément dans un jargon, dans un langage complexe. Et je crois que les hommes politiques ne mesurent pas Emmanuel Macron comme d'autres, d'ailleurs, à quel point ils sont en décalage en termes de langage avec la plupart d'entre nous. D'ailleurs, même nous ne comprenons pas toujours, très franchement. Et je ne suis pas sûr que, en l'occurrence, ipséité soit d'une limpidité totale pour qui n'a pas lu Paul Ricoeur. Donc, je crois que ce sont des signaux. Oui. Alors, comment faire moi, je crois qu'il faut tout simplement écouter, peut-être... autrui, et être attentif aux formes du langage qu'on emploie dans des situations ordinaire et ne pas essayer de chercher de se légitimer par des langages jargonnants. Maintenant, je vais, vous voyez, vous faites appel à moi comme les hommes politiques font appel souvent aux intellectuels, c'est-à-dire comme si les intellectuels étaient des techniciens qui allaient apporter des solutions à des problèmes concrets.
Ou des médiateurs.
Ou des médias. Mais quand même, et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a un malentendu constant entre les hommes politiques, et peut-être parfois les journalistes d'ailleurs, et les chercheurs. Les chercheurs, alors on va hurler, mais les chercheurs ne sont pas là pour apporter des réponses techniques. De même que ils sont dans une logique de recherche fondamentale, ils ne font pas de la technologie, ils ne sont pas là pour apporter en effet des solutions concrètes, mais pour ouvrir sur d'autres horizons.
Alors les chercheurs peuvent être là néanmoins pour mettre en perspective, vous êtes historien,
oui.
Christophe Fauchasson, et vous êtes un historien également engagé auprès des socialistes, vous avez été à l'université d'été du PS à La Rochelle, qui avez-vous vu et surtout quelle évolution vous paraît prendre le Parti Socialiste ?
Oui, c'est un moment intéressant. Moi, je n'étais jamais allé aux universités d'été du Parti Socialiste, et c'était un curieux moment que d'y retourner au moment où ça allait mal, très mal même, pour un parti qui est très affaibli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'y suis allé, et ce que j'ai découvert m'a plutôt intéressé comme intellectuel, parce que au fond, il y avait très peu de gens connus. Très peu de grandes personnalités qui déambulaient dans les allées de l'université d'été à l'encontre de ce qui se passait, m'a-t-on raconté, puisque je n'étais pas venu autrefois, lorsque le Parti Socialiste était au pouvoir, et où il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de journalistes qui se précipitaient pour aller cueillir les petites phrases. Et ce qui se passait, c'est que les débats, les ateliers de l'université d'été étaient très intéressants parce que on se reconcentrait sur des contenus. Donc il y avait en effet il y a me semble-t-il dans ce moment-là une phase de reconstruction intellectuelle, alors avec des flottements, etc. Et nous sommes très très loin de la reconquête politique, mais il y avait vraisemblablement là quelque chose qui se passait avec de nouvelles têtes, avec de nouvelles questions, avec une liberté de ton aussi qui me paraissait intéressante. C'est, je pense, l'avantage de cette situation d'ultra-minoritaire dans laquelle se trouve le Parti
Socialiste.
Comment
l'expliquez-vous ? Vous qui avez travaillé avec
parce
François,
que je l'explique parce que justement les enjeux politiques sont quasiment dérisoires puisque le
non non comment expliquez-vous l'évolution du Parti Socialiste, comment en est-on arrivé là, pourquoi y a-t-il un tel décrochage?
Le Parti Socialiste est devenu extrêmement impopulaire à la suite du quinquennat de François Hollande et de la façon dont les choses se sont passées. Alors là, on pourrait faire la liste d'un certain nombre de choses. Moi, je crois qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un quinquennat qui a été percuté par un drame extraordinaire, ou par des drames extraordinaires, qui relevaient du terrorisme. Comment un pouvoir peut-il résister à de pareils moments? Bon, je pense que ça a contribué à plomber les choses. Bon,
mais pourtant, par ailleurs, les seuls moments où François Hollande a été populaire quelques mois après son élection,
oui,
ce sont les moments de communion nationale.
Oui, enfin, il n'a pas été si populaire que cela. Il a eu un regain
moins
de popularité. Il a été un peu moins impopulaire. Mais ce que je voudrais aussi souligné, actuellement, le journal Le Monde est en train de publier une série d'articles qui racontent les 7 dernières années à l'intérieur du Parti Socialiste et qui me semble réduire la vie politique à vraiment des choses extrêmement, j'allais dire, minables, parce que c'est quand même ça qu'on voit, qu'on lit, et je trouve que c'est une façon très courte d'analyser les 7 dernières années qui se sont passées. On ne peut pas réduire ça à des querelles de personnes, à des rivalités, à des mesquineries des uns et des autres.
Pour préciser, c'est la série de Fabrice Lhomme et Gérard Davé qui
ont
signé le fameux livre qui avait plombé la fin du quinquennat de François Hollande, dans laquelle tous les acteurs se reprochent évidemment le raté de ce quinquennat, qui sont, juste par curiosité, les intellectuels que vous voyez justement avoir une sorte de démarche féconde vis-à-vis du Parti Socialiste. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns aujourd'hui ?
Écoutez, ils sont pas encore très nombreux, mais ce que j'ai vu université d'été, c'est que il y a une nouvelle génération de chercheurs aussi qui sont prêts à participer à la reconstruction de la gauche, au-delà du Parti socialiste d'ailleurs, mais qui était aussi au Parti socialiste. Je pense qu'il est temps aussi qu'on change d'équipe du côté des intellectuels.
Mais dites donc, la tête de liste aux européennes était, alors je ne sais pas comment le qualifier, donc on a des experts, on a des scientifiques comme Cédric Villani, on a des essayistes, peut-être comme Raphaël Glucksmann, c'est un intellectuel pour vous en politique, c'est un essayiste, il faut faire la distinction.
Oui, mais vous voyez, c'est toujours ça, lorsqu'on parle d'intellectuel, on a l'impression que ça qualifie une espèce d'aristocratie.
Effectivement, le problème c'est de savoir si c'est un jugement de valeur ou un jugement de fait.
Oui, alors justement,
si
en termes de...
Un intellectuel, c'est quelqu'un qui commente généralement la société, mais peut-être que je me trompe.
Oui. Non, vous ne vous trompez pas. Moi, je pense que, évidemment, Raphaël Glucksmann est un intellectuel. Enfin, je veux dire, c'est un homme qui écrit des livres, c'est un homme qui vit dans la pensée. Alors après, chacun évaluera, mais ce n'est pas le problème. Oui, c'était un signe, d'ailleurs, en effet, un peu, c'est une prise de risque. D'ailleurs, il ne faudrait pas que le Parti socialiste se transforme en PSU non plus. C'est un peu le risque qu'on pourrait avoir, ou qui rassemble de nouveau uniquement des intellectuels. Mais en revanche, je pense que l'idée qu'il faut que le Parti socialiste revitalise sur la base d'une alliance entre les classes populaires et les classes intellectuelles, appelons-les ça comme ça, ça me semble un bon signe, puisque vous me demandez d'évaluer de temps en temps les choses. Je pense que c'est un bon signe, parce que au fond, le Parti socialiste est, vous disiez, pourquoi on en est là, et aussi mort parce que il est tombé victime d'un déficit d'idées considérable depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'après la disparition du modèle Mitterrand, ouais, ça a été le grand vide.
Mais alors pourquoi y a-t-il une sensation de disparition d'un certain nombre d'idées qui sont chères à la gauche? Prenez l'antiracisme, par exemple. On a entendu Manuel Valls tout à l'heure. Est-ce que l'antiracisme, le fait de lutter contre des ségrégations qui existent de manière, semble-t-il, claire dans la société française, toutes ces choses-là, elles ont été de plus en plus abandonnées, même pour avoir une critique de l'antiracisme au sein du Parti socialiste?
Non, je ne suis pas sûr que l'antiracisme ait été abandonné. Ce qui me paraît le plus inquiétant, c'est que le Parti socialiste a cessé. Vous étiez Durkheim tout à l'heure. Vous savez, Durkheim considérait que le socialisme et la sociologie, c'était la même chose. Qu'il y avait un mariage, en quelque sorte, fondamental.
La sociologie ne va pas très bien.
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que pour avoir prise politique, en quelque sorte, le socialisme devait être une science de la société. Ce qu'il a cessé d'être. C'est-à-dire qu'il est resté dans une conception ancienne de la société. Et je pense qu'il est urgent que le socialisme reprenne pied dans l'analyse de la société. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple, qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui? Bon, c'est ça qu'on pourrait attendre, les mutations du travail, qui me paraissent évidemment fondamentales pour un parti comme le Parti socialiste. On attend que le Parti socialiste produisent des analyses innovantes, comme on dit aujourd'hui, et il faut qu'ils s'adossent, de ce point de vue-là, à des chercheurs, à des sociologues, à des historiens, et ils sont nombreux, même s'ils ne sont pas connus, qui travaillent sur ces questions fondamentales.
Et l'engagement? L'engagement, où est-il? Parce que on a l'impression, là aussi, que les partis politiques, ce n'est pas uniquement propre aux partis socialistes, deviennent de plus en plus des appareils isolés, coupé de ceux qui traditionnellement s'engageaient, Christophe Prochasson.
Moi, je crois que Alors, je vais revenir, vous allez me dire, au vieux monde, au nouveau monde, et on trouvera. Je crois que tout le vieil héritage né au XIXe siècle, qui a fait notre vie politique, les intellectuels, les partis politiques, un certain nombre de doctrines, enfin, ce modèle-là, en effet, d'une certaine façon, ne fonctionne plus. Ces agencements-là ne fonctionnent plus. L'engagement en particulier, tel qu'il a été conçu comme une figure un peu romantique, ne fonctionne plus. Mais ça ne veut pas dire que, évidemment, il faut que chacun reste chez soi et regarde l'histoire se dérouler. C'est pas du tout le point de vue qui est le mien. Il faut trouver sans doute d'autres rapports aux politiques, que les chercheurs trouvent un autre rapport aux politiques, moins institutionnalisé sans doute, qui leur permettent de dérouler leur travail dans des perspectives politiques, mais en étant des êtres libres.
Christophe Prochasson, Voyage d'un historien à l'intérieur de l'État, c'est votre livre paru aux éditions Fayard.